Marie-Josée de Aguiar est l'une des 50 psychothérapeutes à avoir signé cet appel à la vigilance sur, eh bien, les écrans qui nous envahissaient dans le Psychology Magazine, qui s'interroge très régulièrement, hein, d'ailleurs, sur, eh bien, la présence, l'omniprésence de ces écrans dans notre vie. S'il y a même un sondage IFOP qui a été réalisé pour ce magazine, où l'on apprend que 71% des Français sont préoccupés par la place prise par les écrans dans leurs relations, et 59% se sentent dépendants d'eux. Vous vous rendez compte, 59% dépendants de leurs écrans. Donc trop d'écrans, et les spécialistes s'inquiètent évidemment. Avec nous par téléphone, Marie-Josée de Aguiar. Bonjour Marie-Josée.
Oui, bonjour à tout le monde. Merci d'être sur vos antennes.
Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez préciser quelle est votre la psychothérapie que vous pratiquez, vous ?
Oui, tout à fait. Alors moi, je suis psychothérapeute gestalt-thérapeute. Alors quand j'entends effectivement la place prépondérante des écrans dans les familles, la gestalt est une thérapie qui s'intéresse beaucoup à ce qui est du contact et du contact avec l'autre. Alors évidemment, quand on est rivé sur son écran, on perd quand même beaucoup de la qualité des contacts humains.
Alors, est-ce que vous-même vous constatez autour de vous, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir et qui ont cette problématique-là dans leur vie avec les écrans ?
Oui, alors c'est plutôt du côté des parents en fait, hein. C'est plutôt les parents qui s'inquiètent du nombre d'heures passées de leurs adolescents sur les écrans et du coup du manque de relations, de contact avec eux. Donc j'ai beaucoup plus de parents et qui sont dans la difficulté effectivement de séparer les ados de leurs écrans, de leurs internet, etc., de leur télévision. Donc là, c'est plutôt des parents que je reçois.
Mais est-ce qu'il y a des côtés bénéfiques à avoir ces écrans tout le temps autour de nous quand même ? On est tout le temps informé, dès qu'on a besoin de savoir quelque chose, on le sait presque instantanément, alors qu'à une certaine époque, il aurait fallu aller chercher dans la grosse encyclopédie, par exemple.
Oui, alors effectivement, on s'aperçoit que les jeunes, alors on va parler plutôt peut-être des jeunes, parce que je trouve que ça les touche plus particulièrement. Effectivement, c'est une vraie source d'information et il y a des tas de choses qu'ils apprennent. Ils n'ont plus besoin des parents ou des grands-parents ou de la famille pour les apprendre ou leurs éducateurs. Mais néanmoins, ça ne compense pas la qualité d'information qui pourrait être dite, des questions qui pourraient se poser quand l'information arrive chez le jeune. Donc ça perd quand même de la qualité et puis aussi on ne peut pas trier l'information qui est très vite accessible. C'est aussi le danger de l'information immédiate. Donc c'est plutôt de la surconsommation. Dolto disait ça peut être vite de l'intoxication. L'information c'est bien quand elle est bien diffusée. Sinon, ça devient vite de la tox. Hein.
À partir de quel moment on sait que c'est trop, finalement, qu'il y a trop d'écrans autour de nous ou qu'on est trop penché dessus ?
Moi, je crois qu'il faut s'inquiéter quand on s'aperçoit que la personne, mais alors là, il y a aussi des adultes qui sont dans cette situation, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus capables de communiquer. Hein. On les sent tellement rivés sur leur écran de télévision ou d'ordinateur que le moindre contact humain peut les déranger, ils ne sont plus capables de rentrer dans une conversation. Voilà, je crois que là, il faut vraiment s'inquiéter. Dès qu'on est dépendant, il faut vite s'inquiéter de ça.
Mais Marie-Josée de Aguiar, est-ce qu'on ne disait pas ça ? Moi, il me semble, quand j'étais enfant, j'entendais des gens dire ça de la télévision. Internet n'existait pas encore, mais on disait, regardez, ils sont scotchés devant la télé et ils perdent la sociabilité, quoi, en quelque sorte. Est-ce que finalement on fait pas un transfert de ce qu'on disait avant sur la télévision vers l'internet aujourd'hui, qui serait le nouveau démon, en quelque sorte?
Oui, c'est exact ce que vous dites. La télévision a un petit peu cet effet hypnotique, en fin de compte, hein, chez l'individu. C'est une consommation qui est vite accessible. Enfin, on n'a pas d'effort à faire. Donc voilà, personne ne remet en question. Après tout, voilà, l'écran nous informe et nous, on est là à recevoir. Donc tout va bien, on est tranquille. Hein. Il y a quand même quelque chose de la tranquillité et pas beaucoup de remise en question avec l'autre. L'internet, je trouve que c'est plus pernicieux dans le sens où il y a quelque chose comme d'infini presque. Hein. C'est vraiment l'enfant ou le jeune se plonge là-dedans. vous ne pouvez, enfin, vous avez dû faire cette expérience, on ne peut ne pas s'arrêter, hein, avec l'Internet.
Ah, on peut y passer une nuit entière, oui.
On peut y passer, c'est assez fascinant, d'ailleurs. Ça peut être très vertigineux. Tout est accessible, tout semble accessible, ouais. Hein. Je crois que c'est là vraiment, il faut se méfier. C'est un peu comme les.
Et au bureau, c'est même très, on va dire, chronophage. Ça prend un temps fou, parfois, de faire une recherche sur Internet. Nous, dans notre métier en radio, eh bien, quand on cherche une info, on cherche à recouper une info régulièrement. Parfois, on va aller sur un site, puis sur un autre, puis sur un autre. Puis des fois, on va passer plus d'une heure sur un truc qui méritait pas de passer une heure, parfois. Hein.
Oui, tout à fait, oui. Donc, vous découvrez quelque chose, donc vous rebondissez. C'est ce que je dis, ça tiroir, en fin de compte. Hein. Donc, c'est là le danger. Je crois que c'est la question de la limite, toujours. Donc, d'ailleurs, on s'aperçoit, on entend beaucoup, moi, j'entends beaucoup dans mon cabinet, les parents qui ne savent pas poser la limite et qui ne peuvent plus. C'est-à-dire que les adolescents, quand ils ont 17, 18 ans, ils ne veulent plus que le parent pose des limites et ça peut devenir violent. Moi, j'ai connu des parents qui étaient vraiment dans des violences extrêmes.
Hein. Quand on parle d'écran, on parle bien sûr d'écran d'ordinateur, mais aussi, et beaucoup aujourd'hui, de téléphones portables, surtout chez les jeunes.
Oui, hein? Effectivement, tout à fait, oui. Tout est visuel, en fin de compte. Tout est visuel, auditif, mais enfin, ça manque quand même de chair, tout ça, de réalité, de contact. C'est pas pareil d'être devant un écran, une image, hein, que d'être en face d'un autre qui a des émotions, des ressentis. Alors moi, je suis gestalt-thérapeute, on travaille beaucoup avec ce registre-là, de l'émotionnel et du ressenti. Et on perd de cette qualité de contact avec l'autre. Et ça, c'est quand même.
Pourtant, quand on voit sur les réseaux sociaux de type Facebook, les gens qui parfois disent un peu leurs émotions et permettent à d'autres de découvrir ces émotions et de réagir d'ailleurs à ces émotions en mettant des commentaires, etc. Il y a pas une autre forme finalement de lien vers l'autre là qui se crée autour de ces réseaux sociaux et de ces écrans du coup?
Oui, on pourrait dire, mais enfin moi je traite beaucoup dans mon cabinet des problématiques relationnelles, amoureuses, affectives, donc ça n'a pas l'air de faciliter la tâche. C'est plus facile de dire je t'aime par écran et on ne sait pas trop comment l'autre va le recevoir que de lui dire en face et de le voir peut-être rougir ou être ému ou fuir, pas tellement c'est ouais. Difficile à entendre. Vous voyez, il y a pas la réaction de l'autre et ça je crois que c'est quand même c'est pas remplaçable.
Ouais. Donc ce serait finalement une solution un peu de facilité d'être devant son écran, quelque chose de simple à vivre et de reposant qui fait que on va pas voir plus loin finalement parce que c'est tellement simple.
Bah écoutez, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que c'est pas la réalité. C'est très bien, c'est très informatif, ça permet des envolées, ça permet de rencontrer, de connaître, de découvrir, mais c'est pas tout à fait la réalité humaine quand même. De cette consistance là.
Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a un côté pernicieux. Nous, alors Aurélien, là, qui est en face de moi à la réalisation de cette émission, il a en face de lui trois écrans d'ordinateur. Moi, j'en ai un.
Oui.
Si je me déplace jusqu'à mon bureau, évidemment, j'ai un autre écran d'ordinateur. Quand je rentre chez moi, j'ai sur le trajet mon téléphone portable et à la maison, la télévision et l'ordinateur. C'est vrai que, sans parler des jeunes, là, on va parler des adultes qui sont au boulot, les écrans sont là aussi omniprésent, on peut plus s'en passer aujourd'hui, quoi. Est-ce que ça crée des troubles psychiques quelconques aujourd'hui chez les uns et les autres?
Des troubles psychiques, non, je suis pas certaine. Moi, je suis pas non plus une. Je pense pas que ça crée. Non, c'est juste que ça peut créer de la dépendance. Enfin, c'est certain qu'il faut se méfier de. C'est quand même facile. Moi aussi, ça m'arrive. D'ailleurs, j'ai envie d'être tranquille. Je rentre chez moi le soir. D'autant que mon métier est de passer ma journée à parler avec l'autre et de ce qu'est l'humain. Donc voilà, ça me repose. Mais tant que vous êtes conscient que ça vous repose et que voilà, c'est facile, c'est accessible. Tout va bien. C'est quand vous commencez à ne plus pouvoir communiquer, quand l'autre vous parle et que vous lui répondez plus, ça fait 10 fois qu'il vous répète la même chose. Enfin voilà, qu'il y a une espèce de coupure comme ça relationnelle qui s'installe. Là, je crois qu'il faut quand même faire attention. et à ne pas être dans cette consommation sans conscience. Voilà, je crois que c'est toujours la question d'être conscient de là où on est. Mais évidemment, c'est un outil aussi. Non, ce sont des outils quand même extraordinaires.
Mmh. Alors, vous faites partie, hein, je le disais en ouverture de notre entretien, Marie-Josée Déhagard, de ces 50 signataires, hein, de cette alerte lancée dans Psychologie Magazine, oui. Magazine ce mois-ci. C'est pour quoi faire, pour aller plus loin, cet appel à la vigilance?
Mais je crois justement que les uns et les autres fassent attention, que l'écran, la magie de l'image, de ce contact facile n'est pas la réalité, et que nous restons vigilants tous à conserver en fait les qualités relationnelles que nous pouvons avoir, que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle, et que c'est quand même irremplaçable.
Mmh. Voilà, il faut être maître, hein, de ces...
Oui, voilà. Mmh.
Maître de ces outils, savoir éteindre l'ordinateur, le téléphone quand on rentre au théâtre ou au restaurant, voilà, ce genre de choses aussi.
Hein. Exactement, voilà, absolument, oui, il n'y a pas que les enfants qu'il faut sevrer parfois, il faut aussi, c'est des vrais... L'autre fois, je lisais un livre de psy, il y avait un collègue qui disait c'est une prothèse parfois.
Mais on voit des gens qui ont d'ailleurs, on voit des gens qui ont des petites oreillettes Bluetooth et qui marchent. On a l'impression que quand on les croise dans la rue, qu'ils vous parlent de loin comme ça.
Absolument.
Et alors heureusement, on s'est habitué. Aujourd'hui, maintenant, on trouve tout à fait normal de voir quelqu'un parler tout seul dans la rue. Mais là, il n'y a plus d'écran. L'écran est dans la poche.
Exactement, oui, ça fait un peu robotisé quand même. Hein. Donc, soyons vigilants quand même.
Bon, merci beaucoup, Marie-Josée Déhagard. Où est-ce que vous exercez, vous?
J'exerce à Paris, en fait, dans le 11e.
D'accord.
Voilà. J'ai un cabinet privé et puis je me balade aussi pas mal maintenant, en France notamment.
Eh ben, écoutez, merci d'avoir été avec nous à l'occasion donc de cet article qui nous a interpellés dans Psychologie Magazine. Merci d'avoir parlé avec nous sur CFM Radio. Au revoir.
Eh ben, je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, 17h30, 19h, à Kultur, la vie des pays.